Mais qui est vraiment ce sacré Charlemagne ? Texte de Delphine Mercuzeau. Charlemagne est-il roi de France, un souverain germanique ou un précurseur de l'Europe ? Charles a bien été couronné roi des Francs en 768, mais son horizon ne se limite pas à nos frontières actuelles. Le centre du pouvoir se déplace vers l'Est. Ce n'est pas un hasard si Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle en 790. Dès 771, l'année où il règne enfin seul, une habile alliance matrimoniale avec Hildegarde lui apporte le soutien de l'aristocratie alémanique. Il lance ensuite sa première expédition en Saxe en 772. Rassembleur d'un empire qui constitue le creuset de l'Europe féodale et des nations modernes, Charlemagne est donc l'un des pères de l'Europe, mais d'une Europe sanglante. Du fait de l'expansion à l'Est, dans les territoires germaniques ou en Italie, le territoire appelé à devenir la France se situe aux marges de l'Empire. Il est à l'ébauche dans la principauté de Francie occidentale, accordée au petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve.
La culture générale par Serious Audio et l'éléphant.
Pourquoi l'appelle-t-on l'empereur à la barbe fleurie ? Ce surnom est-il mérité ? Selon son biographe, Egin Hart, élevé à la cour d'Aix-la-Chapelle, Charles était un berbe. C'est la légende qui lui a accolé cette barbe, symbole de sagesse. L'homme qui a refondé l'Empire d'Occident et présidé à la transmission de la culture antique est entouré d'un mythe. D'autant que nombre de souverains peuvent revendiquer l'héritage de ce monarque idéal. Au XIIe siècle, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, qui cherche à donner une justification théologique à l'Empire, fait célébrer la canonisation de Charlemagne. La conversion forcée des Saxons déplaît cependant à l'Église catholique qui ne le considère pas comme saint. Son caractère imprévisible, ses accès de colère et de cruauté ne cadrent pas avec l'image d'un roi sage. Charles n'est pas non plus un lettré. Il comprend le latin, peut le lire, mais ne sait pas l'écrire. Il semble doué pour les langues et dialogue avec les ambassadeurs. Les historiens le dépeignent comme demi-instruit. Il est en revanche un soldat vaillant, un excellent stratège et un bon administrateur. Comme beaucoup de grands hommes, il a bénéficié de circonstances exceptionnelles, mais il a su les exploiter habilement.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Comment est-il parvenu à ressusciter l'Empire romain d'Occident ? Charles a hérité du titre de patrice des Romains, accordé à Clovis. Alors que les rois mérovingiens tiraient leur légitimité de rituels magiques associés au couronnement, comme les cheveux longs et le tour du royaume en char à bœuf, Charles a été sacré. Il n'est plus un souverain comme les autres. Il est à la fois roi et prêtre. Pour les clercs qui l'entourent, l'Empire est une référence à l'âge d'or qui dépasse les cadres des royaumes barbares. Sans le revendiquer lui-même, Charlemagne apparaît comme l'incarnation de l'unité de l'Occident. Les papes lui accordent progressivement les privilèges réservés à l'empereur, d'autant que le trône byzantin occupé par une femme, Irène, est considéré comme vacant. En 798, le pape Léon III est chassé par la populace qui l'accuse d'immoralité avant d'être rétabli par l'armée franque. Le 25 décembre 800, à Rome, il couronne Charlemagne, se prosterne devant lui selon le cérémonial impérial et le fait acclamer par l'assistance. Un intellectuel, Alcuin d'York, conseiller intime et habile propagandiste, qui s'est attaché à présenter Charles comme un nouveau David, roi élu de Dieu, est l'instigateur du couronnement impérial. Egin Hart rapporte que le nouvel empereur est sorti furieux de la cérémonie. Il aurait souhaité que les acclamations précèdent le couronnement, selon le rite byzantin. Un millénaire plus tard, Napoléon Bonaparte s'en souviendra et préférera se couronner lui-même plutôt que de laisser l'initiative au pontife. L'empereur est désormais à la tête de l'Église. Cette confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sera à l'origine de schismes et de guerres au Moyen-Âge. De plus, ce souverain peu instruit sème les germes de la discorde entre Orient et Occident en s'arrogeant le droit de modifier le credo, la profession de foi chrétienne. Pour Charlemagne et ses théologiens, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. L'ajout de ce filioque est à l'origine d'une querelle théologique non résolue entre catholiques et orthodoxes.
Ça fait du bien, non ? Normal. Vous écoutez Sirius Audio.
Charlemagne a-t-il réellement inventé l'école ? C'est une fable des moines de Saint-Gall dans l'actuelle Suisse alémanique. L'école existait bien avant les Carolingiens. Avec la chute de l'Empire romain, les monastères étaient cependant devenus les seuls lieux de transmission du savoir. En 789, Charlemagne innove en promulguant l'Admissio Generalis, texte qui exige la fondation d'écoles et de centres de correction de textes sacrés dans chaque monastère et chaque évêché. D'autres textes suivent, priant les parents d'envoyer les enfants à l'école et le clergé d'instruire gratuitement leurs élèves. L'empereur poursuit un but pratique. Il faut former des administrateurs efficaces et un clergé instruit. Son programme se résume donc à des enseignements de base, lire, écrire, compter, liés à la pratique religieuse ou à l'exécution de tâches administratives. Ses vœux pieux témoignent d'un foisonnement intellectuel. Quel est le rôle de Charlemagne dans cette renaissance caroline ? Il respecte les savants et sait les attirer à son service. L'école du palais, dirigée par Alcuin d'York, donne une impulsion au renouveau intellectuel et spirituel du royaume. La famille de l'empereur participe au mouvement intellectuel et fournit de grands clercs. Drogon, fils illégitime de Charles, devient archevêque de Metz. Cette vie de cour brillante repose aussi sur ses filles. Si Charlemagne a exilé ses fils, il a évité de marier ses filles pour ne pas renforcer le pouvoir de grands aristocrates qui pourraient concurrencer son lignage. Ses princesses vivent notoirement en concubinage avec des clercs. Berthe, par exemple, s'unit à Angilbert, futur abbé de Saint-Riquier. Leur fils Nithard, fidèle de son cousin Charles le Chauve, recevra également l'abbaye de Saint-Riquier. Père et fils en font un centre culturel de premier plan. Pourquoi Charlemagne bénéficie-t-il d'une image si flatteuse ? Est-il le héros présenté dans les romans ? Charlemagne a fait l'objet d'une habile propagande. Alcuin d'York, Eugen Hare, les moines de Saint-Gall, tous s'accordent à louer le souverain et à critiquer ses prédécesseurs mérovingiens, surnommés les rois fainéants. Nithard, petit-fils de Charlemagne, tranche cependant avec la tradition. Dans son « Histoire des fils » de Louis le Pieux, il relate les guerres dynastiques auxquelles il a pris part du côté de Charles le Chauve, mais il se garde bien d'encenser son cousin et nous livre un témoignage sincère. Une fois l'Empire disparu, il ne reste que la légende. L'empereur est devenu un héros de chansons de gestes. Son règne apparaît comme un âge d'or perdu. La tradition l'intègre aux Neuf Preux, une légende illustrant les héros guerriers incarnant l'idéal de la chevalerie, comme Hector, Alexandre le Grand, César ou le roi Arthur. Ces familiers deviennent des personnages de romans, à l'instar de sa mère, Berthe au Grandpied, ou de Roland. Mais la littérature transforme toujours les événements qu'elle relate. L'épisode de Roncevaux est à cet égard emblématique. Dès la fin du IXe siècle, l'un des plus anciens poèmes français, la chanson de Roland, impute l'attaque aux Sarrasins, fait de Roland le neveu de l'empereur et le défenseur de la chrétienté. Il est doté d'une épée merveilleuse, Durandal. L'image de Roland sonnant du cor pour donner l'alerte après avoir longtemps refusé d'appeler au secours et brisant son épée pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi est devenue un modèle de vertu chevaleresque.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.